8h.
Bonjour à tous. Au moins un blessé grave la nuit dernière à Paris. Un étage d'un immeuble s'est effondré dans le 11e arrondissement de la capitale. Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour une soirée. 19 ont été légèrement blessés également. Selon les premières constatations, l'effondrement est structurel et n'est pas lié à une fuite de gaz. Une réponse face aux nouvelles menaces de Donald Trump. Nous saurons faire respecter la souveraineté européenne, promet Emmanuel Macron, alors que le président américain souhaite imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui viendraient s'opposer à une annexion du Groenland par les États-Unis. Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, ajoute le président de la République hier soir sur ses réseaux sociaux. Dans le même temps, hier, plusieurs milliers de personnes ont défilé au Danemark et au Groenland pour s'opposer à l'annexion de l'île par les Américains. Mobilisation à Nuuk, notamment la capitale groenlandaise. En France, des milliers de personnes ont manifesté hier pour soutenir le peuple iranien. Mobilisation à Paris, Lyon, Nantes ou encore Rennes à l'appel d'associations, de syndicats et de partis de gauche. Depuis plusieurs semaines, les manifestations continuent en Iran pour défier le régime des mollahs. Une nouvelle semaine qui s'annonce tendue pour Sébastien Lecornu. Après ses dernières annonces sur le budget vendredi, le Premier ministre peut compter sur le soutien du Parti Socialiste. Le leader du PS, Olivier Faure, a tout de même fait deux demandes hier soir aux 20h de TF1 pour ne pas censurer le gouvernement. Il souhaite entre autres que le financement des nouvelles mesures ne se fasse pas sur le dos des Français. Le sport avec du foot d'abord, l'OM retrouve le sourire en Ligue 1 avant de recevoir Liverpool. Les Marseillais se sont imposés 5-2 hier soir sur la pelouse d'Angers. Un peu plus tôt, Toulouse a battu Nice 5-1. Notez enfin que Lens reprend la place de leader après son succès 1-0 contre Auxerre. Et puis cette bonne nouvelle pour le clan français, à moins d'un mois des JO d'hiver, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry ont été sacrés champions d'Europe de danse sur glace hier à Sheffield en Angleterre. Prochain objectif, la médaille d'or à Milan Cortina. Très bon week-end.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Quand la musique évoque l'eau, on y entend l'évocation de la nature et voilà qu'on en oublierait presque de répondre à l'invitation à s'y refléter. Faudrait-il être rappelé à l'ordre par les réflexions de Gaston Bachelard sur le poète qui regarde dans l'eau pour y trouver une forme littéralement fondamentale d'initiation musicale. Comme dit la musicologue Marie-Pierre Lassus, Bachelard savait mieux que personne qu'une musique, qu'un dessin d'enfant ou même une démarche sentie quand elle s'accompagne chez certains êtres d'un orchestre invisible, communique plus de vie que n'importe quelle analyse impuissante à exprimer directement ces choses. En répertoriant tous les noms de musiciens, musicologues et chanteurs cités dans ses livres, la musicologue a non seulement éclairé la sensibilité musicale de Bachelard, mais aussi montré qu'en lecteur des recherches ethnomusicologiques de ses contemporains, sa pensée tient d'une expérience de l'écoute, une manière d'apprendre à entendre. Pour faire un tour d'horizon des goûts musicaux du philosophe et envisager les endroits de sa pensée qui peuvent être travaillés par la musique, Marie-Pierre Lassus a signé auprès du Septentrion l'étude Gaston Bachelard musicien. Et elle est l'invitée de ce numéro reflété de Métaclassique. Un extrait de La mère de Debussy dans la version de l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart enregistré en 1980 sous la direction de Sergio Celibidac. Bonjour Marie-Pierre Lassus.
Bonjour.
Peut-être dire un mot d'abord de ce chef d'orchestre, même si on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Quand Celibidac écrit « Le monde sonore de Debussy n'est pas traduisible avec les mots conventionnels du langage que nous pratiquons chaque jour », Bachelard aurait pu signer cette phrase.
Totalement, puisque Celibidac se refusait justement d'enregistrer, il ne voulait pas enregistrer la musique, il voulait la vivre sur le moment, et l'a partagé ainsi. Et il a réfléchi à une phénoménologie de la musique. Et il m'a beaucoup inspirée justement dans sa démarche, parce qu'il refuse aussi l'analyse, il dissèque, il décortique en morceaux donc les partitions, et en disant que l'énergie, la vie, la dynamique de la musique est très difficile à traduire.
Et quand il dit les mots n'arrivent pas à expliquer ou à décrire un état, il met quoi à la place ? Il n'y a que l'expérience sensible dopée d'une bonne dose de spéculation ?
J'aurais tendance à répondre un peu comme Baudelaire, que lisait beaucoup Bachelard, ou même Mallarmé. La meilleure façon de répondre à de critiquer, dans un article qui s'appelle « À quoi bon la critique ?», la meilleure façon de critiquer une œuvre d'art, soit un tableau, une musique, c'est d'écrire un poème et donc de se prêter à un autre langage hors du langage conventionnel qui fait justement écouter les mots, raisonner et ouvrir l'imagination.
Sortir de l'argumentation pour laisser les images faire leur travail aussi.
C'est ça.
À la lecture de Bachelard, on doit s'intégrer dans une œuvre conçue davantage comme un organisme vivant que comme un objet à contempler, dites-vous. Ça veut dire de s'y plonger, on peut...
Carrément. J'ai devant moi l'image d'Empédocle, qu'il cite beaucoup, qui se jette dans le volcan. Et c'est ainsi qu'on doit se jeter aussi dans la musique, qui nous enveloppe d'ailleurs, qui vient à nous. Et Bachelard le dit vraiment, c'est quelque chose qu'il répète souvent, qu'il faut s'engager, j'allais dire corps et âme, dans les images. Et j'aime beaucoup, justement, pour définir l'écoute, cette définition d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Toru Takemitsu, qui dit que écouter, c'est se changer en son, en existant en lui. C'est-à-dire vraiment faire l'expérience de l'autre, aller au plus profond du son pour écouter justement ses vibrations, écouter du point de vue du son aussi le monde.
Alors, il est assez peu question des seuils, alors que c'est une pensée qui en suppose beaucoup. C'est-à-dire que il s'agit de se refléter dans la forme musicale, mais aussi se faisant déjà de la traverser ou de la pénétrer tout en s'en pénétrant, tout ça étant forcément mêlé. Mais il y a une sorte de progression quand même dans ce chemin d'écoute.
Ça dépend évidemment ce qu'on veut obtenir finalement. S'il y a par exemple des phénomènes qu'on ne peut pas entendre aussi, que travaille la musique spectrale justement, qui écoute justement les sons qu'on ne peut pas entendre, qui travaille cette vibration qui ne parvient pas jusqu'à nous, que certains autres qu'humains, certains animaux entendent par exemple. Donc il y a des seuils effectivement, et un seuil par exemple très réfléchi et très très bien pensé, c'est le silence qui est toujours sonore chez Bachelard et qui retentit de tas de palpitations, de tas de vie. Et Bachelard est vraiment un penseur du silence sans lequel la musique ne peut pas naître. Il a beaucoup travaillé là-dessus, réfléchi.
Vous évoquez la musique spectrale. Est-ce que c'est vrai que Bachelard est à l'origine même de l'idée du mot spectral pour désigner cette musique, comme
Alors,
ça peut
il
être
parle
dit
beaucoup du spectre, en général même dans ses travaux scientifiques. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment l'origine du mot.
Il semble
quand même, parce que il en est beaucoup question, en effet, dans ses travaux, y compris scientifiques et poétique.
Et y compris dans sa pensée du son, précisément. Avant Barthes, il va focaliser sur la voix de Charles Panzeras, qu'elle peut avoir de grain.
Le grain de la voix,
ça
absolument.
Veut dire qu'il n'en écoute pas seulement le verbe, il n'en écoute pas seulement le timbre séparé de son épaisseur. C'est quoi le grain de la voix pour Bachelard?
C'est une singularité, j'allais dire vraiment. C'est quelque chose de très particulier à un interprète, justement. Ce qui est admirable chez Bachelard, c'est toujours cette écoute polyphonique, justement. C'est le mot polyphonie aussi est au cœur de son travail. Et il n'écoute pas qu'une seule chose, mais vraiment plusieurs choses à la fois. C'est aussi ça qui me passionne aussi chez lui.
Alors, pour comprendre ce qu'il entend par écoute poétique, il va falloir qu'on arrive à préciser ce qu'il entend par poétique tout court. Dans la poétique de l'espace, il parle de la voix de Panzera comme le chanteur sensible à la poésie. Et donc, on comprend qu'à travers poésie, il entend autre chose que le logos ou que le langage signifiant. Mmh. Une autre manière pourrait être aussi de lire cette phrase de l'eau et les rêves. Il dit « Si l'eau ne redonnait pas les accents du merle chanteur, il semble que nous ne pourrions pas entendre poétiquement les voix naturelles. L'art a besoin de s'instruire sur des reflets, la musique a besoin de s'instruire sur des échos, c'est en imitant qu'on invente. » Donc oui. C'est dans ce jeu d'échos, d'allers-revenus, de reflets, que le dire peut s'épaissir, et c'est cette épaisseur qui va s'appeler poésie.
Oui. Mais je mets un bémol quand même, ouais. Il ne s'agit pas de représenter pour autant.
Oui.
C'est-à-dire, quand il dit cela, il suppose aussi qu'on réinvente à partir de ces sons. Hein, et il ne s'agit pas de reproduire le son du merle, enfin du chant du merle. Il dit que les oiseaux, justement, ça c'est une théorie d'ailleurs extrêmement ancienne, enfin depuis toujours on s'est inspiré des oiseaux comme musiciens, et on dit, Bachelard précise encore ce qu'il y a, cette théorie, en disant que les oiseaux en fait reproduisent, enfin imite le son de l'eau, qui est le son fondamental, à partir de quoi, d'après Bachelard, s'est greffé le parler humain.
Donc il est en cela fidèle à l'idée évolutionniste qu'on a chanté avant de parler ?
Certainement.
Voici un extrait d'une mélodie de Debussy, « Je tremble en voyant ton visage » par Charles Panzera. Charles Panzera qui chante Debussy. Ça fait deux fois qu'on écoute Debussy. Pourquoi c'était un compositeur si important pour Bachelard ? Quelle évidence il allait y trouver ?
Alors, pour plusieurs raisons, je dirais. D'abord, l'amour de l'eau qui les réunit, premièrement. Et puis aussi parce que Debussy est un grand écoutant des sons de son environnement, justement, comme Bachelard. Je dirais, et donc il a donné justement au monde une autre façon d'écouter la musique et de faire et surtout de donner beaucoup d'intérêt au son, et ce qui a entraîné une écriture totalement différente de la musique et du langage. Qui jusqu'à présent était le langage tonal, bon, qui a été poussé à ses limites. Voilà. Et donc, il a aussi une poétique de Debussy très, très, très. Il a aussi une qualité de silence dans sa musique qui est extraordinaire.
Et quand Debussy dit que la musique est quasiment par essence mystérieuse, est-ce que ça ne va pas se reconduire sous la forme d'une pétition de principe chez Bachelard, qui va tellement tout le temps supposer que la musique est mystérieuse qu'il va ne pouvoir y trouver rien d'autre qu'un mystère, j'ai l'impression.
Alors oui, c'est vrai que... Mais oui, et par exemple, il a une phrase de Debussy qui est très... très... comme toujours, très, très, beaucoup d'humour. Il dit on ne mesure pas, on ne va pas parler d'une forêt en mesurant la longueur des arbres, par exemple. Il dit ça, ça ne se mesure pas, c'est-à-dire l'art ne se mesure pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui les réunit encore, c'est que pour Debussy, la musique, dit-il, est un total de force. Et c'est la thèse en fait de l'air et les songes où Bachelard essaye de montrer que l'essentiel dans la musique, et pas que dans la musique d'ailleurs, ce sont les forces et non les formes. Et ça, c'est tout à fait moderne. C'est une pensée qu'ont repris ensuite Deleuze et Guattari. Ensuite, beaucoup de compositeurs ont parlé du jeu avec les forces. Mauricio Anna, par exemple, ont parlé de l'énergie de la musique, Zenakis, Varèse, faire un cours d'histoire de la musique, mais il y a quelque chose là chez Bachelard d'extrêmement moderne, contemporain, et très proche de son contemporain qui est Debussy.
Alors il y a une autre source, c'est bien le cas de le dire, importante pour Bachelard, c'est un certain Fabre d'Olivet, qui est un des grands occultistes du 19e siècle, et il a fait tout un travail sur l'étymologie, notamment l'étymologie du mot musique. Et donc Bachelard a lu de très près ce livre qui s'appelle La musique expliquée comme science et comme art.
Oui. Alors qu'est-ce qu'il en a fait après, je ne sais pas. Et Debussy, disons, était baigné dans ces milieux ésotériques au tournant du siècle, du 20e siècle. Donc il a entendu parler de ce livre que moi j'ai beaucoup lu justement pour essayer de voir un peu comment on pouvait le lire. Après, Bachelard est totalement éloigné de tout ésotérisme, de tout d'ailleurs doctrine religieuse ou autre. Il ne parle jamais de ça, mais c'est intéressant parce qu'il est ouvert absolument à tout, toute pensée, et notamment une pensée qui a beaucoup compté pour lui, c'est l'alchimie.
C'est-à-dire, c'est quelle alchimie ?
Alors, plusieurs alchimies. D'abord, l'alchimie du verbe, évidemment, avec Rimbaud. Bon, oui. Ça, c'est une façon d'aborder l'alchimie. Mais il s'est beaucoup intéressé aux alchimistes. Quand on regarde les livres qu'il a lus, il a lu vraiment les alchimistes. Mais pas du tout. Pour lui, l'alchimie n'est pas du tout une quête de fortune. c'est pas pour faire de l'or.
C'est un système de compréhension du monde.
Valeur, c'est une valeur morale, dit-il. Oui. Il dit d'ailleurs que l'alchimie, pour lui, c'est la langue de la rêverie, et c'est aussi une culture de l'intime. Parce que selon Bachelard, il le dit dans la poésie de la main aussi, quand on travaille la matière, eh bien la matière nous travaille. Enfin, on crée la matière autant qu'elle nous crée. Donc ça, on le retrouve, c'est le principe même de l'alchimie, l'adepte est transformé par la matière, et ce qu'il cherche, c'est surtout l'or intérieur, en réalité.
Mais il n'a pas de procédé comme la langue des oiseaux à faire des sortes de jeux de mots, de quasi contrepétrie qui aurait valeur comme ça. Alors, de révélation.
Non, il écoute les mots simplement et il leur donne un tout autre sens. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la langue des oiseaux qui était effectivement qui touche l'alchimie. Lui, par exemple, moi il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est le mot de l'aïeul.
Ouais.
Il l'entend tout à fait autrement de ce qu'il veut dire, c'est à la fin de louer les rêves.
Oui, il dit
le glaïeul est une fleur rouge, l'origine c'est le glaive, c'est très dur comme vision. Et lui, il dit le glaïeul, en fait, quand on l'écoute, c'est le deuil de l'eau mélancolique. C'est-à-dire qu'il multiplie les liquides et il le fait entendre sur... Enfin, c'est un passage.
Je veux dire,
il a tout un paragraphe merveilleux. Et on est complètement transporté dans un autre monde, comme toujours chez Bachelard, qui nous ouvre des portes de l'imaginaire d'une manière assez extraordinaire.
Alors, j'ai été surpris en vous lisant de son monde poétique, parce que comme vous allez chercher toutes ces références à la musique, vous tombez pas mal sur ce qu'il dit des poètes. Il y en a qui me semblent complètement raccord avec le système philosophique qu'on est en train de décrire, et puis d'autres qui m'étonnent davantage. Alors évidemment, ce qui est très évident, c'est qu'arrive Novalis, la métaphore de la harpe éolienne, en fait est plus qu'une métaphore pour Bachelard.
Bien sûr, Novalis, c'est vraiment quelqu'un qu'il a beaucoup lu, il le cite beaucoup dans son œuvre. Enfin, c'est vraiment une référence essentielle, je crois, pour Bachelard. Aussi, son approche du feu, il le cite beaucoup pour plein de raisons, d'ailleurs.
Et puis, il y a l'autre Hamon à qui il consacre un plein livre, parce qu'il en va de la place que la poésie va pouvoir occuper.
Alors, l'autre Hamon, pour ma part, je considère que c'est un livre absolument essentiel, qui a été écrit assez tôt, 1939, il me semble.
Oui.
C'est à travers la lecture de l'autre Hamon, à mon avis, que Bachelard prend la mesure du dynamisme des mots. Et il dit d'ailleurs dans ce livre qu'il faut justement développer une esthétique de l'énergie. Parce que vraiment, dans notre Hamon, il perçoit vraiment le côté, tous les verbes, l'attaque, l'agression, et il dit ça s'entend dans sa manière d'écrire. Et je crois que Bachelard a été vraiment l'un des critiques qui a vraiment été interpellé par cette musique-là, ce rythme, je dirais plutôt ce rythme d'ailleurs, cette énergie. Et il dit, voilà, c'est une esthétique de l'énergie.
Et il reprend une question fondamentale que vous voyez, vous, en filigrane dans toute son œuvre, c'est faut-il rompre avec la vie ou continuer la vie ? C'est-à-dire se mettre comme ça sur une sorte de ligne de crête qui va exciter un vitalisme dans le rapport à ce qu'on dit ?
Alors, il y a même... ce que souhaite Bachelard, à mon avis, c'est provoquer chez le lecteur...
Ouais.
Rendre le lecteur vivant, le mettre en belle vie, comme il dit que lui, par exemple, les poètes le mettent en belle vie, parce qu'ils le dynamisent, ils le rendent vivant. Et c'est mettre le lecteur dans un certain état, un état poétique, un état créatif, qui est la visée de la poétique de Bachelard.
Un état natif, vous dites ?
Non, créatif.
Créatif. Parce qu'il y a cette espèce de volonté de retour à l'enfance peu permanente. Quand il parle de Rimbaud, il dit de Rimbaud qu'il cherche la paix vocale en jouissant longuement des voyelles. Un peu plus loin, c'est à la source même de la voix, à la naissance des voyelles, qu'il faut placer le bonheur de parler.
Absolument.
Il y a quand même une espèce de fétichisme des origines, hein ? Non ?
Non, je ne pense pas. Je pense que Bachelard nous ramène très souvent au pré-humain, à ce qu'il y a, à l'antécédence de l'être, dit-il, à plein de mots comme ça.
Oui.
Et l'enfant, vraiment, est une notion absolument déterminante pour lui. Et il revient à cette espèce d'aurore de la vie. Parce qu'il pense que l'enfant, justement, est en deçà du langage conventionnel. Donc, écoute les mots, les saisit et en fait quelque chose d'autre. Et c'est cette approche qui est un modèle pour lui, en tout cas du point de vue poétique.
Voici la 7e des scènes d'enfant de Schumann.
Thank you.
écouter la version de Cyprien Katsaris de La Rêverie, l'opus 15 numéro 7 de Schumann. J'ai choisi cette version, Marie-Pierre Lassus, parce que dans Gaston Bachelard, musicien, vous écrivez que Schumann aboutit au même résultat que, on devine, Bachelard, à savoir une sensation de dilatation, d'accroissement d'être provoqué par la contemplation. Et c'est vrai que là, on entend bien l'espace entre les notes qui compte bien autant que le discours plein.
Absolument. C'est même ce qui, pour moi, fait toute la musique. C'est-à-dire, ce qu'il y a entre les sons et les interprètes qui sont capables de le rendre sont vraiment des interprètes qui ont ce sens-là, à mon avis. Par exemple, bon, là, vous avez cité cet interprète, mais Glenn Gould, par exemple, est quelqu'un qui a totalement conscience de ce qu'il y a, qui fait entendre ce qu'il y a entre les sons.
Pas de grande poésie sans silence, écrit Bachelard dans L'eau et les rêves. Et vous, pour vous, vous en faites un programme musical de cette phrase.
Absolument. Ouais. Absolument. Et Debussy, dans Péléas et Mélisande aussi, cite, il dit à un moment donné, il y avait un silence extraordinaire.
On entendrait dormir l'eau.
Voilà.
Mais alors dormir l'eau, c'est ambigu parce que l'eau qui dort, c'est aussi une eau qui cache quelque chose.
L'eau qui dort, c'est vraiment l'image chez Bachelard des dormeurs éveillés.
Oui.
Et il dit, il a dans une causerie radiophonique, il parle des dormeurs éveillés, et il dit que justement l'eau dormante, ça exprime justement toute la rêverie, c'est-à-dire cet état à la fois entre veille et sommeil, cet état intermédiaire entre veille et sommeil, et il a cette image de l'eau dormante qui le poursuit beaucoup, parce que l'eau sommeille et en même temps elle est éveillée.
Est-ce qu'on peut dire que Bachelard fait partie de ces penseurs qui pensent avec leur voix?
Certainement. Il a en tout cas, il a écrit et il a attaché beaucoup d'importance au vocal.
Et donc il y a quelque chose de sa pensée qui s'imprime dans sa voix?
Dans sa voix, alors sa voix, elle est très très particulière, évidemment. C'est quand on écoute Bachelard, on est vraiment très surpris de sa voix, et notamment ça donne beaucoup d'énergie. Par exemple, au son liquide, au L, au R, voilà, tout est transformé par son accent bourguignon, évidemment. Et voilà, quand il dit que le mot rivière est le plus beau mot de la langue française, ou le mot armoire, c'est vrai que quand il le dit, lui, ça, il y a une énergie qui sort qui est beaucoup plus réelle que...
On va l'écouter dans un extrait d'une causerie radiophonique de 1952.
Le monde des reflets. Que serait-il sans le miroir des eaux dormantes? Les hommes eussent-ils inventé des miroirs si la surface d'une eau tranquille ne leur avait pas rendu si fidèlement leur image? La psychanalyse a justement nommé, à partir d'une telle image passionnément contemplée, le complexe de Narcisse. Mais la psychanalyse, en multipliant les explications psychologiques, a, en cette occasion, intellectualisé les symboles. Elle a détendu les liens qui unissent les symboles secondaires aux symboles primitifs. Bref, la psychanalyse nous a écartés de la méditation de l'image primitive. Elle a, il faut bien le dire, dépoétiser l'image poétique fondamentale. Elle a perdu les valeurs de contact avec un élément radical de la poétique naturelle. Si nous revenions vraiment au miroir des fontaines, si nous vivions la poésie dans la nature, peut-être la contemplation toute solitaire de nous-mêmes dans la solitude des champs, perdrait-elle sa nocivité? Voilà précisément la grande leçon de solitude que donne la poésie des éléments, que donne la poésie de l'eau réfléchissante.
L'eau réfléchissante, c'est donc une eau qui appelle à la réflexivité que la psychologisation viendrait bloquer, c'est-à-dire que Narcisse, pour Bachelard, n'est pas réductible à un complexe ou à un profil psychopathologie.
Non, effectivement, parce que la psychanalyse, d'après Bachelard, explique vraiment, donne toujours des raisons, des explications à des choses qui, en fait, méritent plutôt d'être rêvées,
oui,
et interprétées, justement, au lieu d'être, comme ça, expliquées d'une manière résonnante, avec la raison résonante.
Ouais, d'où la préférence dans Rimbaud, Lautréamont ou Novalis, que dans Freud
aussi.
Ou Mallarmé. Mais je disais tout à l'heure, et je n'ai pas été au bout de cette pensée, qu'il avait des poètes dont l'apparition dans ses textes m'ont étonné. Par exemple, il dit « On a tort de sourire lorsqu'un poète nous invite à écouter la fleur user sa couleur ». Ça, c'est une formule qui prend dans Les mains tendues de Noël Bureau. Mmh. Ou à l'entendre gazouiller, terme qui fait référence à René Guicadou qui dit « On tend gazouiller les fleurs du paravent ». Comme d'autres entendent l'herbe pousser ou verdir un oiseautier. Et là, ce sont des références directes à Claude Vigée. Ces auteurs-là, pour le coup, Noël Bureau, René Guicadou, Claude Vigée, ils sont pas dans le modernisme qui peut être celui de la lignée Novalis, Lautréamont, Rimbaud. Mmh. Comment ça se fait qu'ils s'arrêtent à un usage, pour le coup, beaucoup plus simple du langage? On peut dire.
Parce que là, enfin, en tout cas, dans les exemples que vous avez cités, moi, ce que j'entends, c'est que ces auteurs s'inquiètent de ce que entendent les fleurs, ils se mettent aussi dans cette posture d'écoute.
Et dans cette projection.
Et c'est ça qui lui plaît, à mon avis, dans ces auteurs qui sont complètement inconnus. Enfin, il a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui sont complètement inconnus, mais qu'il cite souvent, je trouve, très à propos, même s'ils sont très, très, entre guillemets, mineurs. Hein. Il s'en sert pour justement appuyer sa pensée.
Ça, c'est dans Poétique de l'espace qu'on trouve ces développements-là. Oui. Est-ce qu'il y a une évolution de sa pensée par rapport à la poésie du monde dont il s'agit de s'éveiller à soi?
Ah, moi, je crois.
Oui.
Moi, je crois que le Bachelard, justement, des années 30, enfin 40, n'est pas du tout le même que le Bachelard qui écrit La flamme d'une chandelle et surtout Les fragments d'une poétique du feu, qui est un livre qui n'a pas été achevé, dans lequel il explique justement, il semble dire que finalement, ce qu'il a fait, il se penche sur son travail, il dit finalement ranger comme ça les éléments dans des catégories avec les poètes qui correspondent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire? Est-ce que je ne pourrais pas plutôt développer une doctrine de la spontanéité? Parce que ce qui l'intéresse, c'est encore une fois l'écriture de la vie. De la vie et du mouvement, et comment le faire, et peut-être que je le ferai autrement, mais je n'ai pas le temps, puisqu'il savait, enfin, de toute façon, c'était vraiment au seuil dans les trois dernières années de sa vie qu'il se met à écrire ce livre. Et il a un regard vraiment nostalgique, en tout cas, peut-être que c'est ce qu'on a toujours quand on regarde son œuvre après coup, mais en tout cas, c'est pas le même. Et moi, je trouve qu'il va de plus en plus, c'est mon opinion, vers une pensée poétique. Et là, par exemple, un exemple que je donne dans une causerie justement radiophonique qui me paraît très importante, il dit voilà, je me rends compte que dans ma vie, j'ai beaucoup lu et j'ai fort mal lu. C'est ce que je mets d'ailleurs au début de mon livre. Et je n'ai pas vu qu'il fallait écouter les livres avec un esprit clair et une dimension sensible et une imagination sensible.
Oui.
Et en fait, il faut toujours relire avec les deux. Il appelle ça la double lecture. Moi, j'appelle ça la lecture harmonique parce qu'elle harmonise aussi le lecteur. Et il dit voilà comment il faudrait lire. C'est-à-dire vraiment en écoutant les mots. Encore une fois.
Et alors, vous vous mettez bien à écouter sa langue jusqu'à ses allitérations en comparant des allitérations qui, en fonction de l'élément qu'il va évoquer, ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans L'air et les songes, vous relevez effectivement la grande présence du R, au temps où j'écoutais mûrir les mirabelles, je voyais le soleil caresser tous les fruits, dorer toutes les rondeurs, polir toutes les richesses, le vert ruisseau dans sa légère cascade, ébranler les cloches de l'encolie. Tandis que là où il va parler de la terre, le verbe se fait plus accrocheur, on peut dire. Il suffit d'être acteur, de prendre soi-même la lime à la main, de grincer soi-même des dents comme il convient dans la colère travailleuse, dans la colère active pour ne plus être blessé par les grincements de la matière dure. Vous pensez qu'il y a un cratilisme bachelardien ?
Ah oui,
Oui.
Ah oui. Et ça s'entend vraiment, il y a plein de passages où on voit cette mimétique, justement. Qui pour lui, voilà, absolument, absolument. Et pour faire encore passer quelque chose de l'énergie aussi, cette énergie. Là, le premier exemple, c'est les sons liquides. Et là, c'est l'énergie dure, enfin, le côté dur, résistant, hein, de la matière, qu'il fait comprendre. À l'écoute, même le lecteur, même s'il n'en a pas conscience, il le prend quand même en lui de manière inconsciente. Mais quand on s'arrête comme ça sur des passages, c'est assez frappant justement de voir comment il pense, comment il écrit. Son écriture est vraiment très très expressive.
C'est-à-dire qu'il n'y aurait que cette expressivité quasi phonétique qui pourrait être porteuse de cette énergie positive que vous évoquez, parce qu'au niveau des arguments, il reste un peu apophatique. Vous dites régulièrement qu'il n'est que par la négation, quoi. Tous les mots cachent un verbe, la phrase est une action, mais mieux une allure. Revivons donc les allures que nous suggèrent les poètes.
Mais, oui.
Et donc, c'est il n'y a que la suggestion qui sera véritablement positive.
Ah oui, oui.
C'est ça.
C'est un procédé de suggestion. C'est vraiment ce que fait Mallarmé aussi.
Hein. Oui.
C'est exactement ça, qu'il aime beaucoup, justement. Baudelaire aussi. C'est-à-dire introduire... En fait, l'idée, c'est d'introduire le sens dans les sons. Et peut-être un autre sens qui contredit le sens du langage exprimé dans le poème. Baudelaire est très fort pour le faire, ça, par exemple.
Ah oui, et c'est ça qui va relever chez Baudelaire, c'est-à-dire de s'équiper d'un panel sonore qui va lui permettre d'affirmer qu'il n'y a rien d'autre.
Je dirais que c'est tout le travail du poète,
ça.
Vraiment, c'est de lutter contre le langage conventionnel et de faire entendre quelque chose d'autre. Et par le croisement, les résonances de la phonétique, que permet la phonétique, quand on écoute les poèmes phonétiquement, on les entend d'une autre manière, totalement. Et là, un sens peut surgir.
Vous évoquez un article fameux de 1956 de Karlheinz Stockhausen qui explique que le rythme est du timbre avec effectivement cette pensée spectrale. Bachelard l'a lu, ce texte ?
Il n'en fait jamais mention.
D'accord.
Par contre, non. Mais il s'est intéressé, dans la dialectique de la durée, il parle du rythme.
Oui.
Et ça m'a beaucoup impressionné de lire qu'il n'a pas du tout... Il ne confond absolument pas le rythme et la mesure. Et il parle du timbre, justement. Et ça m'a beaucoup étonné. Alors, je dis non. En fait, je voudrais quand même dire que, comme on n'a pas accès à tous les documents de Bachelard...
Oui, ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'il l'ait évoqué.
Il n'est pas impossible qu'on retrouve... C'est quasiment en même temps qu'on retrouve un jour, peut-être, cette lecture. Mais en tout cas, à ma connaissance, il ne l'a pas lu. Mais moi, j'ai fait le rapprochement parce que Stockhausen est quelqu'un qui a vraiment réfléchi sur cette question-là du son, du timbre, voilà. Et j'ai été vraiment assez émerveillée de voir que ce que dit Bachelard du timbre dans la dialectique de la durée, comme s'il avait lu Stockhausen.
Ce qui vous amène à proposer une écoute de Zeitmaß, qui est l'opus 5 de Stockhausen, qui, vous dites, est allé jusqu'au bout de cette idée en substituant à la notion de tempo, la notion de champ temporel, qui laisse une grande liberté à l'interprète.
Oui.
Voici un extrait de cette œuvre. Thank you. extrait de Zeitmass de Karlheinz Stockhausen, vous nous dites, hein, par Pierre Lassus, que en effet, ça laisse beaucoup de place à l'interprète, sauf que quand c'est Bachelard qui parle de cette liaison entre couleur du son et temps, ça prend une charge tout de suite plus affective. Le temps n'est rien s'il ne s'y passe rien, dit-il, et dans l'intuition de l'instant, eh bien, il va pas trouver meilleure métaphore de l'instant que l'instant qui suit la perte d'un être cher.
Oui, parce que voilà, s'il a une philosophie de l'instant qui est complètement contraire à celle de Bergson, hein, voilà.
Pourquoi faut peut-être expliquer.
Parce que parce que Bergson, voilà, parle du temps comme une durée.
Oui.
Voilà, quelque chose qui coule comme une mélodie, justement, alors que Bachelard prend le temps comme un événement, c'est-à-dire comme le son d'ailleurs.
Oui.
Je ferai vraiment la relation entre le son qui est un événement et l'instant qui est un événement, voilà, comme quelque chose d'inattendu presque, une succession de choses inattendues qu'on a à vivre et non pas, et qui ne s'inscrivent pas dans une durée. Qui coule, voilà.
Alors, pour aller dans les lectures musicales de Bachelard, ça c'est vraiment quelque chose que vous faites qui me semble complètement inédit. Il a, par exemple, lu Maurice Emmanuel.
Oui, bien sûr. Ah oui, c'est même à l'origine de la conception du rythme aussi qu'il a.
Oui, c'est dans la dialectique de la durée.
Si, qu'il alors ça c'est très très connu. Hein. Enfin, je veux dire, il y a l'existence de relations entre tous les deux qui est.
Où il y a un dialogue.
Ah, oui, un dialogue totalement.
Romain Rolland a lui aussi, comme Bachelard, entrepris de rendre au rythme quelque chose de son origine charnelle presque. Enfin,
Et Romain Rolland a aussi parlé à Bachelard. Enfin, il a lu Romain Rolland à travers aussi ce qu'il a apporté de
la leçon de Vivek Kananda,
de la respiration, enfin de la valeur de la respiration.
Oui.
Alors anthropologie, enfin c'est quelque chose qui est très important chez Bachelard, la respiration, et donc il parle des exercices, justement, Bachelard, que l'on peut faire en citant Romain Rolland.
Apprendre à respirer rythmiquement, d'une façon mesurée, par chacune des narines, alternativement, en concentrant l'esprit sur le courant nerveux, sur le centre.
C'est ça.
Il est presque bouddhiste.
C'est-à-dire que pour lui, la respiration, ce sont les poèmes. Voilà.
Ah,
on apprend à respirer dans les poèmes.
Et alors, il y a André Schaffner, cette ethnomusicologie-là. À quel endroit est-ce qu'elle parle à Bachelard?
Alors, c'est au moment je crois qu'il le cite quand il parle du Sacre du printemps de Stravinsky, Bachelard, donc cite cette œuvre. Et justement, il cite les piétinements, en tout cas, du Sacre du printemps, en faisant référence à cet ethnomusicologue. Alors après, il n'y a pas d'autres, je ne sais pas ce qu'il a pu lire de plus, mais en tout cas, ça ne m'étonne pas parce qu'il s'intéressait vraiment à, j'aime pas beaucoup dire le mot, je sais pas comment dire, l'homme primitif, c'est pas du tout ce que il dit l'homme primitif, mais sans du tout aucune arrière-pensée, sans mais parce que il nous replace très souvent
c'était un grand problème de l'ethnomusicologie de cette époque.
Alors, mais à ce qui est avant toute cette
spécialisation.
Voilà.
Oui, parce que surtout avant la hiérarchie des musiques, parce que met en cause l'idée d'une musique parfaite, en fait, ou l'idée d'une musique proprement dite, c'est-à-dire d'une musique qui serait tellement forme ou séparée des autres modes d'expression qu'elle en deviendrait un art.
Absolument.
Et puis il y a cette image du phénix musique que vous prenez. Alors c'est lui qui l'invente ou
non,
c'est vous?
C'est Nietzsche.
C'est Nietzsche.
Alors c'est-à-dire Nietzsche a dit de lui-même.
Pas de Bachelard puisqu'il n'a pas eu le temps.
Non. Et c'est Bachelard qui cite Nietzsche dans le fragment du Poétine du feu en disant voilà, Nietzsche a dit qu'il avait justement, il concevait son œuvre comme un phénix, le phénix musique, parce que Nietzsche était musicien, il a composé de la musique d'ailleurs. Et comme le phénix est une image centrale dans ce livre, et que image centrale chez Bachelard, dans la vie même de Bachelard, il le cite, et parce que tout simplement c'est une métaphore parfaite de la musique qui naît et meurt et renaît sans cesse.
C'est-à-dire que le Nietzsche qui intéresse Bachelard, et donc on a compris le Nietzsche musicien, mais pas tant que ça, celui qui fait des débats avec Wagner ou qui s'éprend pour Carmen de Bizet, c'est plutôt le Nietzsche, par exemple, du Gai Savoir, du fragment 334, Nietzsche écrit « Il faut d'abord apprendre à entendre en général un thème ou un motif, il faut le percevoir, le distinguer, l'isoler, le limiter en une vie propre, puis il faut faire un effort de bonne volonté pour le supporter malgré son étrangeté, pour user de patience à l'égard de son aspect, de son expression, de charité pour son étrangeté. » C'est un peu plus tourmenté qu'une simple phénoménologie dans la plume de Nietzsche.
Oui, c'est le Gai Savoir, et c'est aussi, pour Bachelard, alors c'est pas du tout la même notion, mais Bachelard a proposé la notion de non-savoir, qui n'est pas l'ignorance, est le dépassement difficile de la connaissance, c'est-à-dire un état, une disposition intérieure qui accueille la nouveauté. Le petit enfant qui ne sait pas ce que c'est qu'une table. Et donc, se mettre dans cette disposition-là, c'est le non-savoir. Et le désavoir, alors je ne sais pas si c'est pour peut-être renvoyer au désavoir de Nietzsche, mais en tout cas, chez Bachelard, c'est une notion, c'est une condition du poétique, chez Bachelard.
Ouais.
C'est la condition première, d'ailleurs.
On a parlé de l'eau avec la harpe éolienne, un tout petit peu de l'air, peut-être qu'on pourrait creuser un peu. Vous dites qu'il existe trois sortes de musique en Chine, d'après le Zhuangzi. Ça, c'est une notion qui vient de vous ou de Bachelard?
Alors, j'ai beaucoup travaillé l'art pictural, au départ, l'art pictural chinois. Et j'ai ensuite eu accès à des partitions de sitar chine, qui étaient des partitions incroyables, puisque vous savez, donc les doigtés ne sont pas écrits, mais ce sont des gestes qui sont pris dans la nature. Il y a un imaginaire, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Il y a une sorte d'imaginaire naturel commun qui fait, et je l'ai vu faire en concert, c'est-à-dire qui fait que la personne qui joue de la sitar chine, avec ses mains, imagine un phénix qui va peigner ses ailes, la carpe qui va plonger dans l'eau, ce sont des très belles images. Et les partitions, en fait, la partition reproduit une image d'un événement naturel tel que celui-là, c'est-à-dire un geste que l'interprète, et avec souvent un poème qui est écrit au-dessus pour suggérer un état poétique chez le musicien, et pour qu'il essaye avec ses mains de transcrire ses gestes qu'il est censé avoir vu dans la nature, pour donner au son une qualité vraiment poétique.
Donc ça, c'est vous qui ensuite faites l'analogie entre cette pensée de la musique et puis la référence que Bachelard fait dans L'Air et les songes avec la musique du ciel de Jacob Boehme, philosophe qui entendait la voix des substances et qui amène Bachelard à écrire « Que fait donc l'ouïe pour que tu entendes ce qui sonne et remue ? Diras-tu que cela vient du son de la chose extérieure qui sonne ainsi ? Non, cela doit être quelque chose qui saisisse le son, qui inqualifie avec le son et qui distingue le son qui est joué ou chanté. » C'est-à-dire que tout devient personnel tout en s'universalisant au passage.
Oui, il y a les deux phénomènes, en effet.
Jamais séparés.
C'est jamais séparé, c'est ça.
C'est ça, donc en fait, il y a phénoménologie d'office ontologique, alors.
Pourquoi pas?
Oui, on pourrait presque le dire comme ça. Parce qu'à un moment donné, par rapport au problème que le langage est toujours un peu déficitaire par rapport à ce qu'il s'agirait d'embrasser, vous faites un pont avec Wittgenstein et cette fameuse phrase à la fin du Tractatus Logico-Philosophicus. À quel point est-ce que la liaison entre Bachelard et Wittgenstein tient la route? Parce que donc, il y a une défiance quant aux limites du langage, mais encore
sur le silence, justement, autour du silence.
Mais quand Wittgenstein dit ce qui s'exprime dans le langage, nous ne pouvons pas l'exprimer par le langage, et que donc ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire, ça sonne presque comme une espèce d'appel à la sagesse, plus un impératif pratique que véritablement un...
Je dirais que pour Bachelard, c'est pas qu'il faut le taire, c'est que justement ce qui ne se dit pas, c'est ça qu'il faut dire.
Ah oui, c'est pas pareil quand même. C'est pas la même position.
Non, c'est au niveau du silence que j'avais rapproché les deux. Mais c'est justement le plus important, c'est ce qui ne se dit pas. Tout comme le plus important dans la musique, c'est ce qui se passe entre les sons.
Oui.
Et qu'il faut suggérer.
C'est ce qui vous fait dire que vous-même, quand vous lisez Bachelard, vous mettez à la recherche d'une pensée qui est cachée sous les sédiments expressifs, d'une géologie du silence que vous livrez à essayer de découvrir.
Oui.
Une géologie du silence, c'est-à-dire que comme tous les auteurs très volubiles, ils cherchent à se taire.
C'est bien dit, c'est bien dit. Mais en même temps, je crois que ce silence, il provient aussi de sa grande solitude. Et il revendique aussi la solitude, d'ailleurs, justement, parce que c'est la seule condition, justement, pour accéder à cette poésie, justement, cette poétique. Je crois que c'est ça aussi que je voulais suggérer.
Alors, on pourrait écouter un extrait du Silencière de Oana.
Ah oui, très bien.
Marie-Pierre Lassieux, il y a eu des contacts entre Maurice Ohana et Gaston Bachelard ?
Non, pas à ma connaissance.
Ouais. Et ce Silencière, pour vous, condense quelque chose de la pensée de Bachelard alors ?
Oui, je pense. Bah, c'est un défi, puisque c'est avec des percussions, évidemment.
C'était les percussions de Strasbourg,
oui. Oui, il y a une manière aussi de faire de la musique chez... Alors déjà, la base, c'est que Maurice Ohana dit « la musique vient de l'univers ». Donc il y a cet axiome, je dirais, qu'il est réuni. Et aussi, écoutez, c'est vraiment un très beau passage que vous avez mis là, écoutez les résonances, vraiment les harmonies. Enfin, moi, j'ai toujours été très, très surprise du décalage qu'il y a entre les partitions de Maurice Ohana et quand on joue du Ohana, on entend autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des harmoniques incroyables, il conçoit les accords pour qu'il y ait des résonances infinies, un spectre harmonique absolument d'une richesse incroyable. Et ça, c'est vraiment une écoute d'une finesse vraiment très grande chez Ohana. Je dirais que Bachelard aussi a une oreille très, très fine, puisqu'il s'écoute écouter aussi, et il le dit. Et donc je rapproche ça parce que Ohana est une sorte d'héritier de Debussy aussi. Il se réfère beaucoup à Debussy, à Manuel de Falla aussi, et à cette écoute des sons de la nature, qui est pour lui déterminante.
Et la nature a un endroit qui vient encore une fois défier le langage humain. Il y a cette phrase de Debussy que vous relevez dans Monsieur Croche et autres écrits, un texte qui s'appelle « La musique d'aujourd'hui et celle de demain ». Debussy, il dit « Je crois bien que la musique a reposé jusqu'à aujourd'hui sur un principe faux. On cherche trop à écrire. On fait de la musique pour le papier alors qu'elle est faite pour les oreilles. »
Bien sûr. Bien sûr, et c'est exactement le principe de la musique de Hanna, c'est que vraiment j'ai dû me confronter à cette musique, vraiment monter justement une œuvre de lui, et je voyais vraiment ce décalage. Le dit Debussy s'applique vraiment aussi à cette musique qui doit absolument être jouée. Et pour moi, la musique n'est rien si elle n'est pas jouée. Justement.
Alors pour boucler ce numéro reflété de Métaclassique sur l'eau, il y a un compositeur qu'on n'a pas encore sollicité qui est important pour Bachelard, c'est Wagner. Puisqu'il a cette phrase, Bachelard, dans ses 1000 alvéoles, l'espace tient du temps comprimé, l'espace sert à ça. Et pour vous, Marie-Pierre Lassus, c'est une révélation qu'il a au contact de l'œuvre de Wagner.
C'est-à-dire que c'est Wagner qui l'a d'abord, qui a exprimé cette idée de l'espace-temps.
Oui.
Bon, c'est une certaine idée de l'espace-temps qui est statique quand même hein, chez Wagner. Par contre, quand ensuite les compositeurs au XXe ont parlé de l'espace-temps, c'est plus du tout statique, c'est très très mobile. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'il a pu entendre de vraiment, s'il était vraiment habitué, coutumier des œuvres de Wagner. Mais en tout cas, moi j'ai fait le rapprochement parce que c'est un peu contemporain, mais un petit peu cette idée à l'origine vient de Wagner et de sa façon d'écrire, de tenir en haleine pendant, enfin, je ne sais plus combien de pages, un seul son. Et de développer verticalement, mais d'une manière statique. Alors que ensuite, quand voilà, ce que je disais tout à l'heure, les compositeurs du XXe et XXIe siècle conçoivent l'espace-temps d'une manière beaucoup plus mobile, en tout cas.
Oui,
voilà.
Parce qu'il y a la question du mythe quand même qui est très importante et structurante pour Wagner. Là, on a l'impression que Bachelard a un rapport au mythe un peu plus évasif.
Oui, il dit que là, tous les mythes racontent la même histoire, c'est-à-dire le triomphe du jour sur la nuit.
C'est un bon résumé.
C'est un bon résumé. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Pierre Lassus. On peut lire Gaston Bachelard, musicien aux presses du Septentrion. Et pour se quitter, on peut écouter un extrait du prélude de L'Or du Rhin sous la direction de Pierre Boulez.